Bonsoir.
Bienvenue à cette table ronde sur l'exégèse de Philippe Kadic. Ah, je vais peut-être sortir le livre, en fait. Voilà, je pense qu'il faut quand même montrer la bête. Voilà, c'est ça. Le premier volume donc de l'exégèse de Philippe Kadic. Avec moi pour en parler ce soir, Catherine Dufour.
Bonsoir. Allô, allô.
Auteur de science-fiction, autrice, auteure de science-fiction. Tout à fait à gauche, Pierre-Paul Durastanti, traducteur qui a traduit Dick, notamment des nouvelles. Voilà. Tu as fait des romans ou pas? Non, que des nouvelles. Beaucoup de nouvelles quand même. À sa droite, Étienne Barillet, qui est professeur de français et auteur et qui a écrit un ou deux essais sur Dick. Un essai sur Dick. Et tu es en train d'en préparer un autre, là? D'accord. Donc un grand connaisseur de l'œuvre de Dick. Gérard Klein, éditeur, auteur, qui... Est-ce que vous avez rencontré Dick, par contre? Est-ce que vous l'avez rencontré à Metz, peut-être?
Ben d'abord, j'ai publié une demi-heure au moins. Non, plus que ça. Avec le livre de poche, j'ai publié une vingtaine d'œuvres de Dick. J'ai édité une vingtaine d'œuvres de Dick. Je l'ai personnellement rencontré, mais peu. J'ai dû le rencontrer deux fois, une fois à Metz et une fois à Paris. De tous les auteurs anglo-saxons que j'ai publiés, c'est malheureusement l'un de ceux que j'ai le moins fréquenté. Mais ça s'explique aussi par le fait qu'il est venu très très peu et très rarement en Europe.
Et vous avez écrit beaucoup de préfaces et de postfaces en d'essais autour de ça.
J'ai écrit, je ne sais pas combien exactement, mais enfin certainement plus d'une dizaine d'articles et de préfaces sur Dick. Et surtout... J'ai préfacé les quatre volumes qui réunissent un certain nombre de ses romans et qui chez lui Flammarion et qui ces préfaces constituent une espèce de, enfin je dirais pas de somme, mais enfin un ensemble, si bien que on m'a laissé espérer qu'il pourrait peut-être être réuni un jour. Avec une cinquième partie où je traiterai, parce que je l'ai peu fait dans ces préfaces, des principaux romans de Dick, des grands romans de Dick, en particulier de ceux que j'ai publiés comme Ubik.
À votre droite, Milad Douéoui, qui est historien des religions et qui s'occupe d'une chaire d'humanisme numérique à la Sorbonne. Voilà. Donc il y a une double casquette et c'est assez intéressant, je pense, par rapport à ce livre. Donc on est là pour parler de l'exégèse de Philippe Kadic, qui est un livre vraiment singulier. Je vais peut-être demander à Étienne de nous expliquer de quoi il retourne et de peut-être de résumer les événements de février-mars 1974 pour expliquer vraiment la genèse. Qu'est-ce qui a poussé Dick à se lancer dans ce livre, voilà, qui n'était pas un livre d'ailleurs, mais tu vas tout nous expliquer.
Oui, on va être très synthétique et je vais résumer les choses autant que possible. Donc, février 1974, Philippe Kadic, qui est en train de vivre la dernière période très compliquée de son existence, se fait juste enlever une dent de sagesse. Il est chez lui, il a très mal et il attend une commande d'analgésique que l'on va lui apporter. On sonne à la porte. Une jeune femme est là avec son sachet de médicaments. Et à cet instant, il remarque le pendentif qu'elle porte autour du cou, qui est un symbole de poisson. Il lui demande ce que c'est et elle lui explique que c'est le symbole que portaient les premiers chrétiens dans la Rome antique afin de s'identifier secrètement. À ce moment-là, selon Dick, un rayon rose frappe le cerveau de Dick, frappe le pendentif. Il va se coucher pendant des jours et des jours. Il va être l'objet d'une série d'hallucinations visuelles, d'hallucinations auditives, de cauchemars et de visions qui vont l'obséder. Et ça va être pour lui le début d'une longue quête intérieure qui va prendre la forme de cette exégèse dont nous avons en France la publication du premier tome qui correspond à l'édition américaine, d'une sélection de fragments de l'exégèse. Nous, le manuscrit global, c'est à peu près 8000 pages, non numérotées et non datées. On peut penser à Blaise Pascal et à ses pensées, Là encore, on n'a pas fini de discuter pour savoir quel est l'ordre du manuscrit. Et pendant 30 ans, il va, de manière obsessionnelle, compulsive...
Pas 30 ans, de 74 oui, à sa mort.
Pardon, de 74 à sa mort, il va écrire jusqu'à pas d'heure, la nuit tombée, pour s'interroger lui-même sur ce qui lui est arrivé, et méthodiquement, il va envisager toutes les possibilités mystiques, philosophiques, psychanalytiques, afin de comprendre l'expérience de 1974.
Est-ce que peut-être, Pierre-Paul, tu es au courant du travail qui a été fait, enfin, comment on a mis en forme l'exégèse, comment on est arrivé à ce bouquin qui... Alors, en France, il est publié en deux volumes, donc le premier vient de paraître. Aux États-Unis, donc, l'édition originale est un seul volume, donc deux fois plus gros que celui-ci. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du travail de Jonathan Nessem, peut-être, et de Pamela Jackson?
Alors, justement, il y a eu, à partir du moment, enfin, après la mort de Dick, très rapidement, s'est mis en place un espèce une structure qui visait à, en quelque sorte, prolonger son rayonnement, sachant bien que Dick, à sa mort aux États-Unis, était beaucoup moins connu qu'en France, et surtout beaucoup moins connu qu'il n'est maintenant, puisqu'en fait, aucune des œuvres cinématographiques adaptées de Dick, Blade Runner, Total Recall, etc., puisque maintenant on est à plus de 12 ou 15 adaptations cinématographiques, n'était sortie. Donc il s'est mis en place un truc qui s'appelait la Philip K. Dick Society, qui était en gros une association loi 1901, ou l'équivalent, piloté notamment par Tim Powers, un des amis, un grand écrivain et ami personnel de Dick, et ces gens ont commencé à donner petit à petit, dans leurs petites publications amateurs tapées à la machine et fanzinesques, un certain nombre de fragments, poèmes, quelques nouvelles inédites, mais on savait que le trésor, entre guillemets, enfin, on imaginait que le trésor, c'était cette fameuse exégèse, dont il faisait pas mystère, il en avait montré des passages à Tim Powers, à K.W. Jeter, à Blaylock, c'est trois de ses amis qui sont devenus écrivains. Mais pendant des années, on a reculé parce qu'on savait effectivement que c'était des caisses et des caisses de manuscrits jetés là-dedans en vrac dans le plus grand désordre. Effectivement, on a souvent cité ce chiffre de 8000 pages, 8000 feuillets tapés à la machine, en simple interligne, double face. Donc, un truc, c'est 12 fois la Bible, quoi.
Avec des morceaux écrits à la main aussi.
À la main, des ratures, des trucs recollés par-dessus, enfin. Un palimpseste, quoi. Donc, Dick en avait lui-même donné une très courte version, une espèce de digest de 3 pages qui figure en appendice à Siva, qui est la version fictive la plus aboutie de son expérience, hein, du sens qu'il a essayé de donner à son expérience. Et donc, pendant des années, on a connu ces 3 pages. Voilà. Et sous l'impulsion notamment de Jonathan Nessem, qui est un écrivain américain connu, qui a débuté dans la SF et qui maintenant est quelqu'un...
Faut le signaler, il a Ubik tatoué sur l'épaule.
Qui est un vrai fan, disons. Et qui maintenant a une certaine stature littéraire aux États-Unis, une espèce de Vonnegut moderne, si on veut, a réussi à convaincre un éditeur universitaire de se lancer dans ça. Alors, il a fallu... Ça a mobilisé des dizaines de volontaires qui ont scanné ou recopié ou retapé ces textes. Et à partir de là, une sélection a été opérée et un ordre a été imposé en quelque sorte artificiellement à ces passages en vrac. Alors il y a un véritable travail scientifique quasiment qui a été fait sur cette œuvre. Et alors sachons bien qu'on a là quelque chose qui n'a jamais été pensé comme par Dick comme devant être publié. C'est lui se regardant réfléchir et soutenant une théorie une nuit et la démontant le lendemain. Alors c'est fascinant parce qu'effectivement on voit un esprit très créatif à l'œuvre, mais en même temps ça peut être très frustrant parce que ça n'aboutit jamais à rien, évidemment. C'est une recherche philosophique. Donc la recherche est son propre but. Elle n'a pas forcément vocation à aboutir, mais dans ce cas précis, elle aboutit vraiment à rien. Ça parcourt des cercles, quoi. Donc il faut bien savoir ce qu'on va y chercher, enfin ce qu'on va y trouver, pardon. C'est que ce n'est pas un livre, c'est un journal intime, des fragments, parfois très longs. Il pouvait écrire 40 pages ou 60 pages dans une nuit, hein. Mais c'est pas quelque chose qui a été pensé par Dick comme devant être publié un jour. Donc Il faut bien savoir qu'on a une espèce, malgré l'ordre plus ou moins arbitraire qui a été imposé ou qui a surgi des recherches des différents chercheurs qui ont travaillé là-dessus, on a quelque chose qui tient à une espèce de manuscrit fractal, disons, quelque chose qui est vraiment désordonné, enfin qui a sa propre logique interne qui forcément nous échappe parce qu'on n'est tout simplement pas Philip K. Dick, sachant bien que lui-même savait que cette logique lui échapperait toujours, quoi. Donc voilà, c'est un portrait de l'artiste en puzzle.
Il y avait eu déjà un volume aux États-Unis, mais chez une toute petite maison d'édition, publié par Lawrence Sutin, qui est le biographe de Dick. Mais c'était pas la somme que c'est maintenant. Donc là, c'est des universitaires. Donc il y a des tas de notes. C'est pas une lecture très facile. Il y a des notes de partout, il y a des commentaires, c'est une édition de la Pléiade, quoi, on va dire, c'est vraiment un truc universitaire. Ma question, c'est plutôt pour Gérard Klein, peut-être, est-ce que vous saviez, avant la mort de Dick, est-ce qu'on connaissait l'existence de l'exégèse, et est-ce que ce texte avait déjà acquis le statut mythique qu'il a eu au fil des ans après?
Alors, je voudrais dire une première chose, c'est qu'à mon avis, il a commencé à accumuler le matériau de l'exégèse bien avant 1974. D'ailleurs, compte tenu du nombre invraisemblable, en effet, 8, 9, 10 000 fragments, hein, parfois c'est sur des bouts de carton, va-t-on raconter, il est difficile d'imaginer qu'il ait fait ça en 6 ans, alors que ce n'est pas la période nécessairement la plus féconde. Donc je pense que c'est presque l'œuvre d'une vie, mais enfin, même si c'est peut-être à partir de 1974 qu'il en aurait fait la plus grande partie. Je dois avouer que je n'ai pas lu l'exégèse pour l'instant in extenso. Je le ferai quand je prendrai ma retraite ou après ma mort, mais je vous assure que je le ferai. Je pense que c'est le reflet de deux choses. D'abord, effectivement, la recherche, mais qui est quand même une recherche plus systématique que l'exégèse ne pourrait le donner à penser. La recherche de Dick, c'est le travail de la pensée, une pensée qui est toujours en mouvement et qui est aussi, il faut bien l'ajouter, très mythomane. Dick était un grand mythomane et je dirais que dans un clin d'œil, il me l'a avoué quand un jour nous avons pris un petit déjeuner ensemble. Le deuxième aspect que reflète l'exégèse, c'est l'extraordinaire culture et l'éclectisme de la culture de Dick. Parce qu'il cite énormément d'auteurs, et rien qu'en regardant, je l'ai quand même épluché l'index à la fin, on est très très impressionné. Et quand d'une partie de l'index, y compris de philosophes qui ne sont pas du tout évidents, je crois, je pense en particulier à Heidegger, on s'aperçoit qu'il a vraiment lu les textes en question. C'est pas, il cite pas ça dans le flou. Donc Dick était un autodidacte, mais après tout, quel chercheur n'est pas un autodidacte? Et c'était un autodidacte absolument génial. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je le rapprocherai volontiers, si on me le permet, d'un autre génie tout à l'heure.
Pierre-Paul ?
Oui, alors, pour rebondir là-dessus, je disais tout à l'heure qu'on n'avait guère que les trois pages dans Siva, de l'exégèse, c'est là d'ailleurs que le titre vient, incidemment. En fait, non. Quand Dick est venu à Metz, et Gérard a vu la conférence en question, il a donné une conférence qui a vraiment stupéfié absolument tout le monde, parce que à l'époque, ce qu'on savait de Dick, c'est que c'était un type, son image, c'était un drogué, un mec qui écrivait des romans de SF à la chaîne, de science-fiction à la chaîne, mais c'était pas forcément un mystique, quoi. Aucun de ses livres à tendance mystique n'était sorti en 77. Et donc Dick vient pour parler justement d'un livre sur l'expérience de la drogue, Substance mort, et il donne une conférence stupéfiante, qui s'appelle « Si ce monde est mauvais, vous devriez en voir quelques autres ». Et justement, c'est la première fois qu'on voit Dick parler de son expérience de 1974, parler du rayon rose, parler du fait que, en fait, la réalité dans laquelle nous vivons est fausse. Nous vivons en fait toujours à l'époque de l'Empire romain, mais simplement, il y a une espèce de couche virtuelle à la Matrix, disons, qui est superposée là-dessus. Mais en fait, lui, c'est très bien, parce qu'il s'est réveillé, il a ouvert les yeux, et donc il vit dans l'Empire romain, du temps de Paul, de l'apôtre Paul, et nous tous, nous y vivons aussi. Laissez-moi vous dire que dans le milieu agnostique de gauche de la science-fiction des années 70 en France, ça a fait un certain bruit, disons. Mais c'est là qu'on a découvert effectivement l'étendue, alors soit de la folie ou de l'excentricité, soit de la puissance visionnaire selon la vision qu'on en a, de l'esprit de Philip K. Dick.
Justement, alors, on parle de crise mystique. En lisant l'exégèse, il y a plein de notes de philosophes, enfin d'universitaires et de chercheurs, notamment qui expliquent que Dick est un autodidacte et donc. La manière dont il appréhende des concepts philosophiques est novatrice parce qu'il n'est pas engoncé par des tas de recherches et de dogmatisme qu'il aurait appris à l'université. Et du coup, il va vers des voies nouvelles que d'autres oseraient pas, vers lesquelles d'autres n'oseraient pas aller. Milad, est-ce que au niveau mystique, au niveau de la religion, est-ce qu'il y a aussi ce côté-là autodidacte, ce côté pas engoncé dans des idées préconçues?
Ça, c'est clair qu'il a l'aspect autodidacte qui se voit à la fois par la partie de l'érudition, qui est assez à la fois impressionnante et parfois assez surprenante. Mais je crois le plus intéressant dans le cas de Dick, avec la gnose en tout cas, parce que c'est quelque chose qui est fondamental et qui revient sans cesse, c'est qu'il a une lecture, une interprétation, en tout cas une appréciation, qui à la fois préfigure son expérience personnelle. Il suffit de regarder l'histoire de Mani, le fondateur du manichéisme. Il y a des scénarios qu'il va reproduire lui-même, à la fois dans ses récits, à tonalité autobiographique. Mais je crois le plus intéressant, à mon avis, dans son appréciation de la gnose est triple. Tout d'abord, c'est une tradition de la gnose qui est très très forte, très très radicale, qui n'est pas tout simplement binaire, mais plutôt qui dit qu'il y a deux récits qui existent en parallèle, un le vrai, un qui est le faux, et on est en train de vivre dans le faux. Il faut être un élu pour pouvoir accéder au vrai récit. C'est quelque chose qui, à mon avis, façonne de quelque manière la façon dont... Mais l'autre, qui est, à mon avis, plus intéressant, il n'a pas cité le texte, malheureusement, mais il en avait l'intuition. Je vous rappelle quand même, ça peut surprendre les gens, que la première définition de l'Ubermensch du surhomme de Nietzsche, c'est une citation des gnostiques. Dans le prologue de Zarathustra, il cite directement à travers Porphyre, et c'est la citation, on la retrouve dans l'exégèse, mais il ne savait pas que Nietzsche l'avait citée. Pourquoi dire ça? Parce que l'interprétation nietzschéenne, qu'on retrouve d'une façon presque implicite chez Philip K. Dick, c'est que l'homme gnostique est un homme qui est prisonnier dans sa forme actuelle. Il est prisonnier, il doit retrouver ses origines divines, et pour les retrouver, il faut qu'il soit un homme révolté. Et je crois que cette dimension, on va le retrouver dans certains aspects de ces textes et dans cette récit. Par contre, ce qui est intéressant, je vais m'arrêter là pour ne pas parler trop longtemps, c'est que ce qui va représenter, ce qui va emprisonner l'humain, ça va être la machine, le système, tout ce qui est là, au lieu d'être juste le corps humain. C'est assez intéressant comment on peut revenir à travers l'exégèse et les commentaires qu'il a de beaucoup de textes, par exemple avec Heidegger et Jonas, qui était un de ses grands élèves, qui a fait une thèse sur la gnose avant de devenir futurologiste en Californie. On va retrouver des traces dans l'exégèse, comment il va essayer de retrouver chez lui. C'est assez intéressant quand même, il a suivi. Et l'autre influence, je vais arrêter, c'est Campbell quand même, qui était une figure très importante pour lui et qui a aussi joué un rôle et qui était obsédé par la gnose. Il suffit de regarder ses écrits, c'était un grand, grand obsédé de la gnose.
Est-ce qu'on peut rappeler peut-être pour le public ce qu'est la gnose, en fait?
Ah oui, oui, c'est vrai, si on est dans le... Alors, la gnose, ça décrit beaucoup d'écoles mystiques, parfois des sectes, parfois des religions, qui d'habitude sont façonnées comme un héritage de tradition iranienne, qui dit qu'il y a une opposition continue et un conflit dans l'univers entre le bien et le mal, entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Mais la plus importante, par exemple, saint Augustin a été manichéen pendant 7 ans, qui était la plus grande secte, la plus importante des sectes gnostiques. Pour vous donner une idée de l'importance, les cathares sont des héritiers par les bogomiles, des manichéens, à travers des transmissions assez complexes, et on a toute une tradition qui est conduite. Mais d'habitude, c'est un conflit entre le bien et le mal, qui peut se représenter par des récits mythologiques extrêmement complexes dans certains sectes, et dans d'autres, il y a des rituels, il y a des formes d'ascétisme très 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 important. On ne peut pas manger tout ce qui est vivant, on ne peut pas y même y toucher si on est élu. C'est quelque chose d'assez important et qui a été persécuté de façon extrêmement violente, hein. Ça, il faut le rappeler également.
Oui, la glose, c'est une façon d'envisager la parole de Dieu comme dépassant totalement les compétences humaines. C'est-à-dire qu'une des définitions de la gnose, c'est que c'est ce qui ne peut être complètement ni compris, ni même entrevu, ni même appréhendé. D'où les difficultés d'appréhension de la gnose.
Catherine, toi qui es auteur, est-ce que ça te... pour un écrivain de réfléchir en écrivant comme Dick le faisait, c'est-à-dire de tout jeter sur le papier, est-ce que ça, c'est concevable pour toi? Est-ce que tu, comment tu vois ça, toi?
Alors heureusement pour moi, non, je ne travaille pas comme Dick. Moi, quand j'ai une rage de danse, ce que ça m'inspire globalement, c'est aïe aïe aïe, et ça ne me laisse qu'un mauvais souvenir. J'admets, ça ne m'a amené à créer une grande œuvre de plus de 8000 pages. Et tout est comme ça chez Kadik, tout est à la fois grandiose et déstructuré. Ça devait être très inconfortable d'être Dick, mais c'est extrêmement passionnant d'être lecteur ou lectrice de Dick, bien sûr. Et par exemple, je me souviens dans Substance Mort où il aborde le fait de se droguer. Quand vous prenez la Substance Mort, c'est un petit peu comme si vous retireriez un gant. Mais c'est un gant à crispin, c'est-à-dire avec un revers long. Et quand vous enlevez votre gant en le retournant, la totalité du monde réel est accrochée à ce crispin. Et donc en retournant le gant, vous retournez la totalité de l'univers. Moi, quand je prends du LSD, je rentre en contact avec une boîte de Smarties qui est elle-même en contact avec un lac naturel de chocolat. Voilà. Là, vous avez vraiment toute la différence entre moi et Dick. C'est l'extrême puissance d'évocation et de création de Dick qui est aussi liée à une extrême fragmentation du réel. Et chez Dick, ceux qui ont accès finalement à un plan supérieur et qui voient mieux les choses sont tous ceux qui sont considérés comme anormaux, c'est-à-dire hors normes. Et là, je pense par exemple, il y en a bien d'autres exemples, aux jeunes autistes de glissement de temps sur Mars. Je pense que d'autres pourront donner d'autres exemples de cette importance de la personne hors normes dans l'œuvre de Dick comme voyant, là, au sens rimbaldien.
Alors, ce qui est intéressant avec Dick, c'est que... L'œuvre est achevée, on la connaît maintenant dans son intégralité, y compris avec... Enfin, quand le deuxième tome sortira en français, on aura vraiment à peu près tout. À part un recueil d'essais, qui est d'ailleurs très intéressant, qui avait été réuni par Laurence Sutine et qui n'a pas été traduit. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la façon dont Dick a évolué au fil des ans dans ses récits de fiction, dès 1956 ou 7, il écrit un roman gnostique, qui n'est pas très connu, qui est objectivement pas très bon, qui s'appelle Les Pantins Cosmiques, et dans lequel il y a déjà deux quasi-divinités qui sont identifiées à la lumière et aux ténèbres et qui se disputent en gros une petite ville américaine qui a l'air tout à fait normale mais qui est aussi complètement fausse. Donc on a déjà une espèce de précipité et à la fois de brouillon de tout ce que Dick va faire par la suite. Sous couvert de fantastique, il est déjà en train d'explorer la gnose, la différence entre l'humain et le divin, ce qui va ensuite, il va explorer ces dichotomies de façon beaucoup plus poussée par la suite. Mais c'est curieux, 25 ans avant sa mort et 15 ou 17 ans avant son expérience mystique proprement dite, de voir qu'il avait en quelque sorte anticipé son propre devenir. Alors évidemment, si on est plus mystique que moi, disons, on pourrait imaginer que Dick s'est vu dans le futur en train de recevoir une espèce de déluge d'informations. Il a prétendu, enfin, il a affirmé, et ce qui est surprenant, c'est que c'est confirmé par une de ses femmes, enfin, qu'on lui avait communiqué que son fils souffrait d'une déficience congénitale très grave qui mettait sa vie en danger. Il a amené son fils à l'hôpital et semble-t-il, on a confirmé son diagnostic.
Il l'avait entendu dans une chanson des Beatles, c'est ça ?
Oui, enfin voilà, etc. Quoi. Donc il était capable de il était capable de comme ça de trouver des signifiants qui étaient ou qui n'y étaient pas. Moi, j'avoue que je suis très hérétique à ce niveau-là. Moi, je pense que j'ai lu une théorie une fois qui disait que Dick avait souffert de ce qu'on appelle épilepsie du lobe préfrontal, si je ne m'abuse.
Temporal.
Qui, oui, voilà. Et qui justement déclenche des phénomènes de logorrhée ou de l'équivalent, voilà, l'équivalent en écriture, quoi. Et donc, effectivement, l'équipe se met à avoir des visions, à vouloir comprendre le monde de toutes les façons possibles et imaginaires et imaginables. Et ils se mettent donc à noircir des cahiers et des cahiers. C'est exactement ce qu'a fait Dick. C'est possible. Il est aussi possible, mais moi je suis agnostique, donc je ne crois pas en Dieu, quoi. Donc il est tout à fait possible que bon, il était en contact avec quelque chose, une intelligence supérieure, bien entendu. Enfin, en tout cas, on peut être fondé à le croire. Et lui, un jour sur deux, une nuit sur deux, il y croyait. Effectivement, le lendemain, il se réveillait. Et la nuit suivante, il avait une autre approche très différente, quoi.
Il a eu une expérience du futur où il s'est vu lui-même mort 2 ans avant sa mort.
Alors non, justement, dans l'exégèse, à un moment, il explique pas, j'ai une vision d'un type mort entre le canapé et la table du salon.
Oui, à côté de la table basse.
Et en effet, quand Powers l'a retrouvé, après ça, il n'était pas tout à fait mort, mais il l'a retrouvé entre le canapé et la table basse, quoi. Et Dick ne c'est vraiment un petit passage où il dit j'ai eu une vision de ça, sans commenter plus que ça, il n'explique pas. Donc il y a des choses troublantes, mais ça peut être le hasard. Et le truc, c'est qu'il teste, c'est un truc de test et d'erreur, de bon, alors j'ai cette théorie, bon, ça ne doit pas marcher. Il reteste une autre théorie, c'est sans doute les Russes en fait qui m'envoient des rayons, ok ? Non, mais ça ne doit pas marcher. Donc il ne cesse de changer. Des fois, il revient à d'autres trucs parce que. Il n'a peut-être pas étudié tous les... Et il n'a jamais de réponse. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est la manière, enfin moi je trouve, dont on voit son cerveau réfléchir, en fait. Parce qu'il écrit vraiment ce qui... Et on le voit, il y a des passages où on le voit créer un roman, créer une intrigue de roman. Ça, c'est très très précieux, je pense, pour les créatifs, pour les gens qui étudient son œuvre, mais même pour tous les auteurs. Oui. Et il y a une bonne partie de l'exégèse aussi, parce que l'exégèse, c'est quand même le travail sur le texte, vraiment, où il étudie ses propres œuvres, donc où il essaye d'expliquer pourquoi il a écrit Ubik, par exemple. Qui lui a dicté Ubik pour... Enfin, ça, c'est assez fascinant. Est-ce que c'est pas Ubik qui a écrit Ubik? Enfin, il y a des choses comme ça, quoi.
Est-ce que c'est pas Ubik qui rêve de Philip K. Dick?
Ouais, c'est probablement.
Enfin, à mon sentiment, hein, j'ai quand même beaucoup lu Dick, même si je n'ai pas encore suffisamment fréquenté l'exégèse. On peut dire de Dick qu'il ne croyait pas, mais il était en recherche, ce qui est d'ailleurs une caractéristique de mystique. Mais vraiment, il ne croyait pas, c'est-à-dire penser que, par exemple, dans sa conférence de Metz en 1977, bon, excusez-moi, l'âge, je perds la mémoire. Et donc, dans sa conférence, est-ce qu'il croyait vraiment ça? Il avait une grande croix de bois qui lui pendait sur la poitrine, enfin, tout cet invasable. Le lendemain matin, j'ai pris le petit déjeuner avec lui, puis j'étais quand même un peu secoué par sa conférence, et je lui demande avec un maximum de diplomatie, « Phil, est-ce que vous croyez vraiment à ce que vous avez dit ?» Soit il ne me répond pas, mais il me fait un énorme clin d'œil. Mais un énorme clin d'œil. Donc, en certain sens, c'était la réponse de Dick. Ce n'est pas le problème de croire ou de ne pas croire. Alors, ce que j'aimerais, c'est le rapprocher, ce qui peut paraître très surprenant à certains ici, d'un autre personnage, un autre mutant du XXe siècle, un immense mathématicien, Alexandre Grothendieck. Parce que Grothendieck, qui a été un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui est mort il y a quelques années, est un personnage tout à fait extraordinaire, tout à fait extravagant, bien qu'il ait fait des études en partie autodidactes, a eu des espèces de révélations mystiques comme ça, donc il expose dans un... Ça n'a pas été publié pour l'instant, mais enfin, c'est disponible sur Internet. Donc ça ressemble à l'exégèse, c'est plus organisé. Enfin, un truc qui s'appelle « Récolte des semailles ». Récolte des semailles, et ça mérite d'être examiné. Et Grothendieck avait, surtout à la fin de sa vie, quand il s'est retiré complètement quelque part dans une petite campagne du côté des Pyrénées, il manifestait des croyances tout à fait extraordinaires. Or, encore une fois, c'est un des plus grands mathématiciens et logiciens du XXe siècle. Alors, j'ai écrit un petit texte là-dessus, pour ceux que ça intéresserait, en complément des 4 préfaces que j'ai faites pour les recueils de romans. Tout ça est disponible, tout à fait gracieusement, sur le site de 42. Vous allez voir 42 et vous verrez ce petit texte, Dick et Grothendieck. Dick et Grothendieck.
Milan, vous vouliez...
Oui, très rapidement, je veux dire. Évidemment, on avait évoqué Pascal, mathématicien, avec son expérience mystique, mais quand même, il faut rappeler, une des plus grandes figures scientifiques, en tout cas jusqu'à tout récemment, c'est Newton. Je crois que c'est quoi, 82% de ses écrits sont consacrés à la religion, et surtout qu'il était dans des affaires d'alchimie, il a absorbé des choses absolument étonnantes pour retrouver les anges, communiquer et retrouver la pierre philosophale. Je crois que ce n'est pas du tout surprenant que des figures d'une grande envergure mathématique ou scientifique ou en physique, quand même, Leibniz c'est pareil. On va avoir beaucoup de ces aspects. C'est assez intéressant. Ce qui est intéressant dans le cas de Dick, à mon avis, dans mes lectures de l'exégèse et surtout la manière de voir, c'est que à la fois il avait envie de faire l'exégèse biblique, à la façon dont on la faisait avec tous ses niveaux, parce qu'il avait lu tous les textes canoniques, comment interpréter, et ainsi de suite. Ce que vous avez évoqué sur les commentaires sur ses propres livres, rappelons quand même, parce que le nom est toujours un peu problématique chez lui, à la fois parfois dans ses œuvres et ici, que le premier à avoir fait un livre sur tous les livres qu'il avait rédigés, c'est Saint Augustin, des Retractationes, qui avait créé tout un style après, tout un genre littéraire. Je crois qu'on a beaucoup d'échos, et surtout si on reprend le texte extrêmement difficile pour Dick, moi je ne l'ai pas connu, je l'ai lu, qu'il avait rédigé à la fin avec Zelaznid et Radei, où on voit la difficulté qu'il avait à confronter certains des sujets, qu'il va retrouver ici au fur et à mesure, d'où ce côté dualiste, un soir il est mystique, le lendemain il est scientifique. Je crois que c'est quelque chose qu'il a accompagné toute sa vie. Mais le mystique, c'est pas nécessairement un croyant. Je crois que c'est ça très important. Il ne faut pas confondre les deux.
Je sais pas si vous le voyez comme moi, mais on n'a pas l'impression qu'il souffre en fait. Il recherche, mais oui, il s'amuse. Ouais, il s'amuse.
C'est le comment dire la jouissance mystique. Dans tous les sens, à la fois du commentaire, de l'exégèse, mais aussi de l'expérience individuelle, mystique, dans le sens dont on utilise le mot, je crois, absolument.
Ouais, d'ailleurs, Étienne, c'est une des périodes où il est le plus heureux de sa vie.
La dernière période de la vie de Philip K. Dick est la vie la plus heureuse, ne serait-ce que pour la simple raison que, grâce à la production de Blade Runner, qu'il ne verra jamais fini, il a enfin une aisance financière qui lui permet de vivre correctement, de donner de l'argent à toutes ses ex-femmes et de pouvoir prendre le temps pour lui. Ce qui est fascinant quand on voit la correspondance, les 5 volumes de correspondance de Philip K. Dick, sur les 5 volumes, il y en a un entier qui est consacré à l'année 1974. Il abreuve ses correspondants, parfois plusieurs lettres par jour. Et il leur parle de ses visions.
D'ailleurs, l'exégèse commence avec des lettres qu'il envoie à une étudiante qui travaille sur lui.
Et il écrit à tout le monde. Mais au fil du temps, petit à petit, il va arrêter de parler de l'exégèse. Ça va devenir quelque chose de beaucoup plus intime. Et il va se concentrer sur son écrit. Et il va se remettre à écrire des livres. Ça va être la trilogie divine. Et cette exégèse, qui est donc un exercice de regard de soi sur soi, un exercice intime, exigeant, eh bien, il va en faire une œuvre d'art. Et c'est peut-être la dernière ouverture de Philip K. Dick, où il va réussir à faire une synthèse entre la fiction, la science-fiction, l'autofiction, dans ses derniers romans qui sont totalement à part dans son œuvre, dans une continuité parfaite, mais avec une ambition et aussi une bienveillance qui apparaît de plus en plus, notamment dans le dernier livre, La Transmigration de Timothy Archer, avec ce personnage féminin qui est absolument sublime.
Catherine, tu voulais ajouter quelque
chose ? Oui, je voulais dire qu'il n'a pas une vie pleine de jeux et de riz, hein, K. Dick. Elle a peut-être été pas trop mal dans les dernières années de sa vie, mais il a d'abord commencé par vraiment avoir faim. Il s'est probablement bien esquinté le cerveau parce qu'il fallait absolument qu'il mange, parce qu'il avait une famille à entretenir. Donc il a vraiment pondu des livres et il prenait probablement, je pense, des amphétamines à haute dose pour tenir. Oui. Ça n'arrange pas le cerveau. Du coup, il a produit quelques livres qui, effectivement, sont aisément oubliables sur toute son immense production. Et puis, il avait aussi, bien sûr, ce rapport très difficultueux aux femmes, puisque, ça, c'est un peu la thèse d'un documentaire qui est très bien, qui a été fait par Ariel Kirou sur Dick, où il courait après Jane Dick, qui est tout simplement sa sœur jumelle, qui était morte à l'âge de 3 semaines, et qui est une ombre qui hante la totalité de ses rapports avec les femmes. Donc, vous pouvez en déduire que ses rapports avec les femmes étaient, quand on court après l'ombre d'une morte, qui est votre sœur, étaient parfois médiocrement réussis. Donc j'espère pour lui qu'il a été moins malheureux dans les dernières années de sa vie, mais bonheur et Dick, ça ne me paraît pas tout à fait aller ensemble.
Non, il n'y a, y a, a pas de bonheur, il y a probablement un certain apaisement. Il y a effectivement le fait que, d'abord, il a cessé de se marier, c'est un serial marieur, Dick, quoi. Il s'est marié 5 fois, quoi. Il a demandé à bien d'autres femmes en plus, hein. Et donc, bon, à la fin, sa réputation est en fait, les filles lui disaient, bon, ça suffit, Phil, quoi. Mais effectivement, Dick, par exemple, a pu acheter son appartement. Il menaçait d'être, la résidence où il habitait, où il était locataire, allait être devenir une copropriété. Et donc, les gens qui n'ont pas pu payer devaient partir. Et lui, justement, grâce à la petite aisance que lui avait apporté le grand volume de ses parutions à l'étranger, y compris en France, plus effectivement le coup de pouce donné par Blade Runner. Il a pu comme ça finir sa vie. Enfin, il ne pensait pas finir sa vie, bien entendu, mais voilà, il avait atteint une certaine
stabilité.
Voilà, c'est ça, c'est le bon mot, quoi. Donc effectivement, il était plus stable matériellement, et justement, c'est cette période de stabilité correspond à un moment où il se met totalement en danger intellectuellement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il peut se permettre de devenir fou en quelque sorte. Jusqu'à présent, il était obligé de faire attention, quoi. Il était obligé de se psychanalyser. Après ses tentatives de suicide, il était obligé d'aller dans une structure qui l'accueillait et qui le remettait à peu près d'aplomb, plus ou moins. Là, il peut en quelque sorte lâcher prise, en tout cas intellectuellement, et donc il lâche prise et il produit vraiment des centaines et centaines, des milliers de pages, non destinées à publication, même si, effectivement, comme l'a rappelé Catherine, tout de suite, il écrit aux gens. Il dit, voilà, il m'est arrivé ça. Je pense qu'à un moment, il y a un nombre suffisant de gens qui lui ont dit, écoute, tu devrais peut-être un peu mettre la pédale douce et arrêter de parler de ça, parce que tu vas vraiment passer pour un taré, quoi. Donc effectivement, je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, bon, je garde ça pour moi. Sauf que, de temps en temps, ça ressort. Trois mois avant sa mort, il écrit une lettre à un certain nombre de fanzines qui s'appelle la lettre à Maître Ya, et où il annonce la venue d'un messie qui va naître en Inde et qui va sauver le monde. Donc, mais ça, c'est une vision aussi qu'il a eue, quoi. Et puis, y a ce qui est amusant avec Dick, c'est que, en quelque sorte, c'est comme un vortex, comme un trou noir. Et il se passe toujours des choses bizarres autour de Dick, et même autour des gens qui connaissent ou qui travaillent sur Dick. Moi, je me rappelle très bien d'une conversation très tard une nuit avec Alain Doré-Mieux, et je lui demandais, alors, quand tu as traduit Ubik, comment c'était ? Et Doré-Mieux m'a répondu texto, je n'en ai absolument aucun souvenir. La seule raison pour laquelle je sais que j'ai traduit Ubik, c'est que Gérard Klein, très gentiment, tous les ans, m'envoie un chèque de mes émoluments, disons, mes droits d'auteur, mais sinon je ne me rappelle pas avoir traduit Ubik.
Non seulement il l'a écrit, Ubik a écrit Ubik, mais il l'a aussi traduit. C'est très, très juste ce que tu dis, il a pu se permettre de devenir fou, je trouve ça très, très juste. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, c'était que je pensais qu'il avait vraiment eu des visions et que éveillé, qu'il entendait des choses, tout ça. On se rend compte très vite dans l'exégèse qu'il a eu des visions, mais après, c'est simplement des rêves. Donc il analyse ses rêves, mais il les prend pour argent comptant. Enfin, il travaille sur ses rêves, et ça dénote quelque part une envie de continuer à avoir des visions, de prolonger ce mouvement qui y arrive et de...
L'intérêt d'être mystique, c'est qu'on se singularise. Donc, d'une certaine façon, Dick était en train de devenir normal. Il était en train de devenir un petit bourgeois, propriétaire de son appartement, etc. Là, justement, il se resingularise complètement. Et c'est à mon avis... Alors, c'est pas la seule explication. Il y a une vraie quête d'absolu, de vérité chez Dick, depuis le début, tout du long. Mais effectivement, cette ça lui a au moins permis une chose, c'est de faire la paix avec l'élément féminin. Et Dick, pendant des années, pendant 30 ans, a écrit des textes où les femmes étaient des garces, castratrices, fausses, manipulatrices, et sont au point que des gens qui l'aimaient beaucoup, comme Ursula Le Guin, avaient fini par lui dire, écoute, Phil, on t'adore, mais t'es un peu chaud, quoi, c'est pénible. Et son dernier roman, La transmigration de Timothy Archer, a un personnage féminin lumineux, mais littéralement lumineux, quoi. Mais en même temps très humain, c'est pas du tout une ange, c'est pas une femme idéalisée, c'est une jeune femme qui a ses problèmes, etc., mais qui est criante de vérité, quoi. Et c'est la seule et unique fois dans l'œuvre de Dick où il réussit ça. Et ce qui est évidemment terrifiant, c'est qu'à un moment, il dit dans une lettre que j'ai lue dans le recueil de lettres, il dit à son agent, je peux mourir parce que j'ai écrit La transmigration de Timothy Archer et j'ai fait la paix avec... Il dit pas j'ai fait la paix avec Jane, mais on sent que c'est ce qu'il pense, quoi. Effectivement, c'est son dernier livre, quoi.
Quelle place on peut donner à ce texte dans l'œuvre, en fait? Quelle est son importance et surtout à qui il est destiné?
Le livre n'a pas été écrit pour nous, hein. C'est un livre qu'il a écrit pour lui et que nous regardons un petit peu par-dessus son épaule sans qu'à aucun moment il ne s'adresse à nous. Et c'est ce qui est absolument fascinant parce qu'on est au plus près de sa réflexion, de sa sensibilité, de sa personnalité. Mais en étant aussi proche, on est aussi très très loin parce qu'on se pose énormément de questions sur parfois le pourquoi, le comment et où est-ce que ça s'arrête. Mais c'est monter sur l'épaule d'un géant et espérer voir un petit peu plus loin.
Je vais préciser une chose, c'est qu'avant, la période très noire qu'il a eue, c'est juste après 1974 et avant 1977, enfin, quand il passe au Canada. Enfin, tout ça est dans le très bon livre de Sutin que je vous recommande. Dick savait que pendant la période quand même relativement confortable de sa vie, c'est essentiellement grâce à la France qui touchait les droits d'auteur, pas gigantesques, mais qui venaient de chez Opta et de chez Ailleurs et Demain, enfin de chez Robert Laffont, et je crois aussi un peu de Noël. Donc il a vécu en grande partie, au moins pour plus de 50% de ses revenus, sur son accueil en France, alors qu'aux États-Unis, c'était même après le succès du Maître du Haut-Château, qui n'a pas très très bien marché, même s'il a eu un prix et s'il a été très très bien considéré. Et il en était très conscient, enfin, il en parlait très volontiers.
Est-ce que, Pierre-Paul, peut-être toi qui es traducteur, on peut dire un mot de la traduction de l'exégèse? Parce que ce n'est pas une mince affaire.
Malheureusement, la traductrice n'est pas ici, c'est Hélène Colomb, qui est une excellente traductrice, qui est spécialiste de l'œuvre de Dick, qui a donné un ensemble critique remarquable chez Ancrage, qui s'appelait d'ailleurs Regard sur Philip K. Dick. C'est vraiment la personne, enfin à part moi, c'est la personne idéale, non je plaisante, c'est la personne idéale pour traduire ce genre de texte, surtout que, rappelons-le, c'est bourré de références, de citations, etc. Donc moi j'ai vu Hélène, elle est passée me voir chez moi l'an dernier, elle était en plein dans l'espèce de finalisation et elle n'en pouvait plus. Alors on peut quasiment l'applaudir à distance parce que c'est un grand travail, c'est une très belle traduction en ce sens qu'elle est très fidèle. Là, dans ce cas précis, il fallait vraiment respecter la lettre pour respecter l'esprit. Il y a des phrases incohérentes, il y a des fautes d'orthographe, il y a des abréviations semi-incompréhensibles. Tout cela est respecté par la volonté de l'éditeur. Ça n'a pas été arrangé de manière à être plus plaisant. C'est du brut de décoffrage et il faut avoir beaucoup de talent et beaucoup d'humilité pour arriver à se fondre à ce point dans un texte, et Hélène Colomb était probablement la personne idéale pour ce faire. Moi, je lui tire mon chapeau et tout le monde devrait admirer son travail.
J'ajouterais que Hélène Colomb est non seulement d'humilité, mais d'une modestie effrayante. Par exemple, ce regard sur Philip K. Dick est un excellent recueil d'essais, enfin d'articles, etc., qu'elle a entièrement monté. Enfin, c'est pas elle qui a tout écrit, mais qu'elle a entièrement monté. C'est très difficile de trouver qu'elle en est l'auteur. Elle n'est nulle part indiquée. Recueil, anthologie établie par Hélène Colomb. Enfin, il y a une ou deux petites notes de bas de page qui permettent de découvrir qu'elle en est l'auteur.
On a peut-être le temps pour une ou deux questions du public, s'il y en a.
Comme Gérard Klein a mentionné les liens entre Grothendieck et Philip K. Dick, à un moment, Grothendieck a rencontré Krishnamurti, enfin, je veux dire, la pensée de Krishnamurti qui a joué un rôle important. Est-ce que l'Inde et ou Krishnamurti a jamais rencontré Philip K. Dick
Enfin, oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la fin de sa vie. Dick était persuadé, suite à une vision, qu'un nouveau messie qui sauverait l'humanité naîtrait en Inde. Ce serait une espèce de nouvel avatar du Bouddha. Enfin, je ne sais plus, honnêtement, j'ai lu ça il y a longtemps. C'est ce qu'on appelle la lettre à Maitreya. Donc, oui,
c'est Maitreya, vraiment... mais c'est aussi Jésus un peu.
Oui, aussi. Oui. Et il y avait aussi ça. Et il faut savoir que Dick, a très longtemps, même à l'époque où il n'avait vraiment pas de fric, il soutenait des gens, il donnait à des associations. Et notamment, il finançait comme ça la scolarité de plusieurs enfants, y compris en Inde. Quoi. Donc il a toujours eu une espèce de, je dirais pas une fascination, parce que Dick n'a jamais parlé de l'Inde dans sa fiction, à ma connaissance, en tout cas pas de façon importante. Quoi. De toute façon, Dick n'a jamais parlé que des USA, puisqu'il avait quasiment jamais quitté les USA. La première fois où il a quitté les USA, quasiment, c'est quand il est venu en France à Metz. Quoi. Donc il n'était pas allé en Inde, mais il y avait, par exemple, il parle beaucoup de Tagore. Il avait lu Tagore. Donc il y avait une espèce de dans le foisonnement de références livresques, philosophiques, mystiques, etc., oui, il y a l'Inde, l'hindouisme et ce genre de choses. Ça fait partie de son cocktail mystique.
Une autre question, peut-être ? Oui, il y en a plusieurs.
Bonjour. Je ne suis pas du tout un grand connaisseur de Philip K. Dick, mais pensez-vous qu'il aurait apprécié ou tolérerait même encouragé le fait que ses notes soient lues et ensuite traduites et diffusées? Et une deuxième partie de la question, c'est en général, on sait qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont été diffusées parce qu'elles ont été soit repêchées dans une poubelle ou publiées à titre posthume où l'auteur ne voulait pas que ça soit publié. Donc voilà, pensez-vous qu'il faut respecter la volonté des auteurs ou plutôt celle des lecteurs potentiels ou des fans?
Il faut demander ça déjà à Kafka. Sans l'exécuteur testamentaire de Kafka, Max Brod, qui a refusé ce que Kafka avait en principe, dit-on, demandé, c'est-à-dire la destruction complète de ses manuscrits, nous, sans Max Brod, nous serions privés de cette œuvre. Alors là, la première partie de la question m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que Dick serait content qu'on lise maintenant son exégèse. Mon sentiment, mais ce n'est pas autre chose qu'un sentiment, je n'ai pas de table tournante pour l'interroger, c'est oui. C'est quelqu'un qui était enchanté de développer ses idées. Je dirais que c'était un mythomane conscient de l'être et qui le faisait avec une espèce de jouissance extraordinaire. Donc je crois que oui, de là où il nous regarde, peut-être, il est assez heureux de voir qu'on prête une attention à son œuvre. Parce qu'il était vis-à-vis de son œuvre, pour ce qu'on peut en lire dans Sutil ou deviner dans le code ça, il était lui-même partagé. Enfin, il y avait des parties de son œuvre qu'il n'aimait pas du tout. D'ailleurs, la partie de son œuvre qu'il appréciait le plus, c'était celle qui n'est pas de la science-fiction et qui est pratiquement restée inédite à un texte près que j'ai fait publier avant sa mort. Hein. Il y a eu un... Confession d'un Bargeau, enfin, qui est paru chez Lafont, alors je crois qu'il était encore vivant. Mais en dehors de ça, aux États-Unis, ça n'a pratiquement pas été publié. Enfin, si je me trompe, on me corrigera. Donc, son œuvre de science-fiction, enfin, parfois de choses un peu étranges, apparemment, il n'en était pas toujours enchanté. Il y a d'autres moments, certainement, il était très, très heureux d'avoir écrit Ubique et un certain nombre d'autres textes.
On peut supputer, comme disait Milat, qu'il jouait, et on peut supputer qu'il a... Sans vraiment faire une grande œuvre d'imagination, qu'il écrivait en se disant après ma mort, enfin qu'il jouait avec cette idée peut-être probablement.
Il y a un exemple, c'est que par exemple Dick a essayé de son vivant de faire publier un livre qu'il appelait La fille aux cheveux noirs, qui est un recueil de lettres et de fragments divers qui n'est pas aussi mystique que ça, mais qui quand même est extrêmement autobiographique, extrêmement révélateur. Et Dick n'a jamais été quelqu'un qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. On peut lui trouver beaucoup de défauts, mais Dick était honnête. Et il savait ses défauts, il savait qu'il était mythomane, il savait qu'il était... C'était une espèce d'exhibitionniste intellectuel. Rappelons quand même qu'une grande partie de l'exégèse, ce sont des doubles de lettres, parce qu'il gardait toujours des doubles de tout ce qu'il faisait, y compris ses lettres. Donc à l'époque, on avait encore des machines à écrire et du papier carbone, etc. On pouvait garder facilement un double. Donc il écrivait à de nombreux correspondants et à de nombreuses correspondantes. pour expliciter ses théories. Quoi. Il y a le dernier amour de sa vie, Johan, à laquelle il a écrit des dizaines de lettres où il faisait notamment référence à ces expériences-là. Quoi. Donc, notamment pour se faire bien voir des femmes, Dick a toujours été très très honnête sur ses défauts, etc. Donc, à mon avis, la publication de l'exégèse, c'est même pas qu'il en serait fier, c'est que ça le ferait rire.
Non, et puis il faut arrêter la destruction des œuvres majeures. Il y en a eu suffisamment. Par exemple, Lord Byron a écrit ses mémoires et à la fin de sa vie, il a dit à ses amis « Ah, jetez-les au feu ». Et ses amis l'ont fait. Donc quand on a des amis comme ça, il faut en changer. Quoi. Il y a eu, je pense qu'on ne peut que se réjouir du fait que l'exégèse de Kadic ait échappé au feu. Parce qu'en plus, le plus souvent, quand les ayants droit flanquent tout dans la cheminée au lieu de publier, c'est même pas pour des raisons de problèmes de style, que ce serait pas tout à fait aussi travaillé. C'est souvent pour de sombres histoires, d'histoires de fesses, dont absolument tout le monde se fiche 30 ans ou 150 ans plus tard. Donc c'est toujours extrêmement dommage de ne pas publier toute l'œuvre d'un auteur.
Il y a d'ailleurs une anecdote, c'est que quand Dick est mort, ses amis, dont Tim Powers, tout ça, ont planqué l'exégèse, en fait, de peur que ses enfants mettent la main dessus et qu'ils ne la revoient plus. Quoi. Donc ils l'ont planqué dans un cendrier, enfin bon. Il y a une histoire abracadabrantesque, très dickienne d'ailleurs, là-dessus. On va prendre une toute dernière question, s'il en reste une, et puis...
C'est par rapport à la traduction. Du coup, moi j'ai plein de bouquins de Philip Dick, et qui datent des années 70. Là, vous êtes en train de dire que les traducteurs maintenant sont meilleurs. Est-ce que je dois tout racheter ?
Alors, c'est un gros problème. Ce n'est pas forcément, ça peut être une question de qualité de traduction, enfin de traducteur, de compréhension parfois de l'anglais. Il m'est arrivé de travailler avec traducteur pas tout à fait au point, rassurez-vous, j'ai refait ou je ne les ai pas publiés tels quels. Ça peut être aussi une question, est-ce important, d'époque, c'est-à-dire on sent différemment les choses. Il n'y a pas de traduction parfaite. Il y a des traductions qui sont faites à un moment donné pour essayer de rendre au mieux le style, la pensée, enfin la façon d'être de l'auteur. Alors, si on prend par exemple la traduction du Bic qui a été faite par un de Rémieux, dont il était question tout à l'heure, j'ai très très bien connu Aldo Rémieux, je lui ai confié la traduction du Bic, en partie d'ailleurs pour le dépanner un peu financièrement, mais aussi parce que je savais qu'il admirait Dick et qu'il offrait quelque chose de bien, mais c'est une traduction que je ne qualifierais pas de fidèle. Et en un certain sens, elle est excellente. Mais il y a une invention personnelle de Dorémieux qui n'est pas du tout négligeable, bon, et je le savais, qui n'est pas du tout négligeable dans cette traduction. Alors peut-être faudrait-il refaire une traduction du Bic et publier les deux dans un même volume.
Le travail a été fait. Quand j'ai lu, notamment, à rééditer 80% de l'œuvre de Dick, ils ont tout relu. Et dans certains cas, ils ont fait retraduire. Et notamment, il y a un livre majeur de Dick qui bénéficie énormément de la nouvelle traduction, c'est Le Maître du Haut-Château. Le Maître du Haut-Château retraduit par Michel Charrier, ce n'est pas le même livre. Ça vaut vraiment le coup d'investir les 7 ou 8 euros qu'il doit avoir en poche, parce que par rapport à la version originale qui était sortie chez Optaille, mais il y a 45 ans, la traduction nouvelle est bien meilleure, bien plus élégante, parce qu'effectivement, quand on le lisait en anglais, on savait que c'était Dick qui avait tout mis. Si Dick n'avait pas réussi à vendre Le Maître du Haut-Château, il arrêtait d'écrire, il l'a dit assez souvent. Quoi. Donc c'était vraiment son grand œuvre à l'époque, il avait mis tout ce qu'il était capable de faire, et malheureusement, la traduction française, pour des tas de raisons, n'était pas à la hauteur. Mais c'est vraiment l'exemple, c'est le pire exemple, enfin, et le meilleur exemple à la fois. Non, la plupart des traductions de Dick, parfois il y avait quelques scories, mais ça a vraiment été, tout a été relu par les gens de chez J'ai lu. Et là en plus je peux le dire de façon tout à fait désintéressée, puisque moi je n'y ai que participé de très très loin, j'ai un peu collaboré de façon détournée à la nouvelle version du Maître du Haut-Château, mais c'est tout. Et idem, Blade Runner a été retraduit, c'est pas mal parce que la traduction originale était pas très bonne et due à un traducteur qui connaissait pas bien la science-fiction, donc c'était vraiment, ça pouvait s'améliorer, et là ça a été fait. Il y a quoi, 3-4 livres qui ont été retraduits, et dans tous les Gilles Goulet, qui est ici mais qui est timide et qui n'a pas voulu venir à la sur cette table ronde, a refait
Les Ménards.
Oui, voilà. Et voilà. Après, la plupart des, enfin, beaucoup des textes courts de Dick n'ont été traduits qu'à partir des années 80, sous l'impulsion des éditions de Noël et notamment de Alain Doremieux, Emmanuel Joanne et moi, où nous avons publié 8 ou 9 recueils de Dick. Et ça a été fait dans les années 80. Ça a été par la suite révisé par Hélène Colomb. Donc vraiment, il n'y a plus maintenant de traduction de Dick qui ne soit pas bonne. Il n'y en a plus. Alors c'est vrai que dans au moins un cas, si vous avez la vieille version du Maître du Haut-Château, donnez-la à quelqu'un de méritant, mettez-la dans une boîte à livres, donnez-la à une bibliothèque et achetez-vous la nouvelle, parce que là, ça vaut vraiment le coup. Le livre est vraiment, vraiment bien meilleur. Mais c'est le seul cas.
Tu voulais rajouter quelque chose, Catherine ?
Oui, en fait, pour savoir si... Effectivement, la traduction, c'est extrêmement, extrêmement important, tomber sur un bon traducteur, une bonne traductrice. Et là, moi, enfin, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est je regarde si c'est un traducteur, une traductrice prolifique. Quelqu'un qui est bon va être, on va faire appel à lui, à elle, encore et encore et encore. Voilà. Sauf, alors effectivement, il y a quelques cas exceptionnels quand un petit jeune pas très connu qui s'appelle Boris Vian tombe sur un auteur américain pas très connu dans les années 50. Vous trouverez effectivement pas meilleure traduction que Vian, ou quand un poète pas très bien vu nommé Baudelaire tombe sur Edgar Poe, vous ne trouverez pas meilleure traduction que celle-là. Mais sinon, moi, ce sur quoi je me base, c'est vraiment le fait que quelqu'un soit très demandé par des maisons d'édition. C'est juste qu'il ou elle est très bon, quoi.
Sauf que Vian, pour la fidélité, en ce qui concerne Van Vogt, c'est pas toujours... Mais c'est très bien. Ah non, là, je suis pas d'accord.
Poe en VO est vachement moins bien que revu par Baudelaire, mais enfin...
Bon, mais merci à tous les participants et merci à vous.